RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Le 17 mai dernier, le Vatican publiait un document portant sur le discernement que nécessitent les phénomènes d'apparition mariale et les manifestations extraordinaires. Un appel à la prudence de la part du Saint-Siège afin de prévenir toute forme d'abus ou de confusion. On va prendre le temps d'étudier ensemble ce texte et avec nos invités. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on vous présentera justement des lieux connus pour des apparitions. On ira à Paris, rue du Bac, à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse et Notre-Dame de l'Eau dans les Hautes-Alpes. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce document du Vatican? Comprenez-vous la prudence de l'Église et les critères de discernement? Est-ce que vous êtes sensible à ces manifestations un peu extraordinaire quand même. Est-ce que vous y croyez? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et avec Véronique Alzieux ce matin. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior et bonjour à tous. 1995, à Civita Vecchia, non loin de Rome, une statue de la Vierge pleure du sang. L'évêque lui-même assure qu'il en a été témoin, de même qu'une soixantaine de personnes. Or, des tests réalisés en laboratoire démontrent quelque temps plus tard que le sang en question appartenait à un individu de sexe masculin et, étonnamment, le propriétaire de ladite statue n'a jamais accepté de se soumettre au test ADN. En 2008, toujours en Italie, le gardien d'une église est jugé pour avoir mis son propre sang sur une statue de la Vierge et avoir crié au miracle. Si ces affaires ont vite été résolues et peuvent prêter à sourire, d'autres phénomènes, que l'on peut qualifier d'étranges, posent plus de problèmes et attirent toutes sortes de personnes, des plus ferventes aux plus curieuses, parfois les deux à la fois. C'est pour ne plus avoir à se déclarer sur le caractère surnaturel d'événements de ce genre que le Vatican a rendu public le 17 mai dernier, vous l'avez dit Melchior, un document intitulé « Normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés ». Pour résumer ce texte présenté par le cardinal Victor Manuel Fernandez, le chef du dicastère pour la doctrine de la foi, un mot vient à l'esprit, prudence. Désormais, seul le pape peut, dans des cas exceptionnels, lancer une procédure pour déclarer la supernaturalité d'un phénomène. Pour le reste, il revient à l'évêque de décider, si l'affaire prend une ampleur particulière, d'en référer au Vatican. Le dernier texte daté de 1978 et l'objectif de cette mise à jour est d'éviter, je cite, « des manifestations de dévotion incontrôlées ou douteuses et de ne plus plonger le Saint-Siège dans des débats interminables et insolubles ». Voilà pour la présentation rapide de ce texte et du contexte. Avec nos invités, Melchior, nous allons bien plus précisément évoquer le contenu de ce document d'une vingtaine d'intitulés et ce qu'il signifie pour les fidèles catholiques qui, pour certains d'entre eux, sont très sensibles aux phénomènes extraordinaires.
Voilà, le décor est posé, Véronique. Et pour en discuter jusqu'à 10h, trois invités.
Marie-Hélène Robert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure de théologie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Nous avons également avec nous le père Nicolas de Bocard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et vous êtes spécialiste de droit canon. Et avec nous également Andro Munstermann. Merci d'avoir également accepté d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théologien et vous êtes journaliste. Vous êtes correspondant au Vatican pour un quotidien national néerlandais. Vous êtes également l'auteur, il y a quelques années, d'un ouvrage en mariologie intitulé « Marie corédemptrice, point d'interrogation, débat sur un titre marial controversé ». Ce livre était paru aux éditions du Cerf. Et puis, vous êtes également l'ancien directeur du centre spirituel de Mélan, en Isère, non loin de Grenoble.
Oui,
Véronique. C'est toujours à moi. Vous alors, Andro Munstermann, je vous donne la parole tout de suite parce que vous étiez à la conférence de presse le 17 mai et vous avez donc assisté à la présentation du document dont il est question dans cette émission. Est-ce qu'on peut dire que ce document était attendu, qu'il y avait une impatience autour de ce texte ou bien qu'il est arrivé de manière un peu surprenante et que, à l'inverse, on ne s'y attendait pas du tout?
Non, c'est une grande surprise. Hein. Donc, moi et tous mes collègues journalistes accrédités au Vatican, on avait entendu quelques jours en avance que le Vatican allait produire et publier ce document, mais on s'y attendait pas du tout. On ne savait pas non plus qu'il y avait des travaux sur ce document. Ça se passe derrière les grands murs du Vatican et notamment dans le palais où siège aujourd'hui on dit plus congrégation, dicaster pour la doctrine de la foi. Et même avant la publication, on savait que quelque chose allait venir, mais on n'allait pas du tout dans quel sens ce document allait changer les choses. Voilà, donc
Et alors
tous les journalistes.
Pourquoi avoir maintenu cette discrétion autour de la préparation de ce texte? Parfois, les travaux sont annoncés et donc il y a une espèce d'impatience autour d'une publication.
Oui, donc là, il faut savoir qu'il s'agit d'une mise à jour des textes, d'un texte de règles qui date de 1978. Ces normes et critères qui ont été publiés en 1978 sont restés secrètes jusqu'en 2011. Il fallait que des journalistes, des auteurs fuitent ces textes secrets qui étaient seulement à disposition des évêques pour que le Vatican se dise, écoutez, maintenant, puisque tout c'est déjà dans le livre, on va aussi le publier, nous. Donc, tout ce qui tourne autour des phénomènes surnaturels est un tout petit peu, comment dire, délicat pour le Vatican. On ne sait pas trop comment gérer les affaires. On n'ose pas trop décevoir des fidèles qui, souvent de bonne foi, croient dans ce phénomène, qu'il s'agit des apparitions ou d'autres types de phénomènes de type surnaturel. Et en même temps, on cherche aussi la prudence. Il y a des évêques qui jouent leur jeu. Donc, il fallait vraiment une mise à jour. C'est en 2019, d'ailleurs, que la congrégation a commencé à faire un update, à faire une mise à jour de ces règles. Et donc, c'est un travail de 4-5 années. Et maintenant, le Vatican a considéré, OK, ce mur, on peut le publier.
Xavier de Bocard, Nicolas de Bocard, ce texte dont parle André Münstermann, qui datait de 1978, est-ce que vous en aviez connaissance? Est-ce qu'il était adapté? Et pourquoi était-il resté secret?
Alors la difficulté, c'est un peu la tension entre le pouvoir épiscopal. L'Église voulait que l'évêque soit en première ligne pour, évidemment, c'est lui qui est le premier témoin de phénomènes entre guillemets surnaturels sur son diocèse, et puis aussi la nécessité pour l'Église universelle de donner un accord ou non à ces phénomènes bizarres ou particuliers, dirions-nous. Mais la difficulté, c'est que cette tension entre les deux n'a jamais été très claire. Donc, un évêque pouvait considérer qu'il y avait eu quelque chose de surnaturel, entre guillemets. Je pense aux apparitions de Marie et un siècle plus tard de Saint-Joseph à Cotignac, où c'est l'évêque du lieu qui a constaté, qui a dit qu'il y avait eu effectivement des apparitions. Et puis, la bénédiction de Rome qui arrive parfois des siècles après. Mmh. Et cette tension entre les deux faisait qu'on ne savait pas très bien qui faisait quoi, jusqu'à des contradictions, puisque des apparitions avaient été reconnues comme telles, et puis quelques dizaines d'années après, avaient été au contraire contredites en disant non, il ne s'est rien passé, ou c'est une supercherie. Donc cette ambiguïté mettait évidemment les croyants dans une difficulté. On ne sait plus tellement qui fallait croire, quand fallait-il croire, ou quand fallait-il au contraire s'abstenir d'adhérer à une possible supercherie.
Vous êtes d'accord avec ce que disait André Münstermann il y a un instant, à savoir que le Vatican n'est quand même pas toujours très à l'aise avec ces phénomènes inexpliqués ou inexplicables, un peu surnaturels ou supranaturels?
C'est-à-dire que je pense que nous sommes tous un peu mal à l'aise, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui est du domaine d'un passage de l'Esprit Saint ou au contraire quelque chose qui n'en a rien à voir. Donc les normes sont toujours difficiles, les conséquences de décisions un peu trop claires ou un peu trop nettes sont parfois peuvent être dramatiques pour le peuple de Dieu ou au contraire une édification. Donc c'est des décisions difficiles, mais je pense qu'il n'y a pas que le Vatican, je pense que nous tous, nous ne sommes pas toujours très au clair par rapport à la place de ces phénomènes dans la vie chrétienne.
Marie-Hélène Robert, Vous voulez réagir d'abord?
Oui, simplement pour remercier pour ces éclaircissements. Et puis, j'avais une petite hypothèse. C'est vrai que le pape François a régulièrement encouragé la dévotion populaire. Et je me suis dit que peut-être que c'est en même temps important à réguler. On ne peut pas à la fois encourager et laisser sans normes. Et voilà. Et puis,
il était temps donc que ce texte
oui,
sorte.
Oui, du fait de ces encouragements. Mmh.
Alors, vous l'avez lu, ce texte, vous l'avez travaillé hein, depuis le 17 mai. Qu'est-ce qui a retenu votre attention de manière un peu générale, dans la tonalité, dans le style? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce texte?
La tonalité se veut synodale, hein, avec ses premiers mots « à l'écoute de l'Esprit-Saint ». Donc, on n'écoute pas d'abord ce qui va nous plaire ou ce qui va nous réveiller, mais on écoute vraiment l'Esprit-Saint à l'œuvre dans le peuple fidèle de Dieu. Et donc, ces éléments-là nous disent que le Seigneur passe, il agit dans l'histoire, et en même temps, il s'est donné de manière définitive, il s'est révélé de manière définitive en Jésus-Christ, et il n'y a rien de plus ou de nouveau à attendre. Mais il y a un autrement. Et c'est cet autrement qu'il faut écouter dans les siècles.
Qu'est-ce que ça veut dire autrement? À quel sujet?
Dans le sens où cette révélation en Jésus-Christ par les Écritures, mais aussi par la création, mais aussi par l'action de Dieu dans les fidèles, elle se déroule dans l'histoire. Mais en même temps, tout est déjà donné en Jésus-Christ. Ça, c'est le texte des Verbum du Concile Vatican II. Et donc, ce qui est difficile à décrypter, c'est en fait en quoi est-ce qu'il y a correspondance entre cette révélation ultime en Jésus-Christ et ce qui arrive dans le cœur des fidèles.
Donc, ce texte, Marie-Hélène Robert, il est relativement long quand même. Alors, ça n'est pas non plus un ouvrage, mais c'est pas une note, quoi. Hein. C'est pas une seule page. Il fallait prendre le temps quand même d'expliquer. Il fallait prendre le temps de développer. C'est fait, mais c'est abordable. C'est rendu public.
Oui.
Hein, c'est un texte qui n'est pas...
On trouve sur Internet.
On ne l'a pas trouvé
facilement.
Sous le manteau. Hein, voilà. il a été publié, il est rendu public. André Monsterman nous le disait, il était à la conférence de presse. Donc, comment est-ce que vous interprétez cette volonté du Vatican de communiquer autour de cette question également et de clarifier les choses?
Justement, je crois pour avoir libéré en fait cette religion populaire en disant, bon ben d'accord, c'est bon, ça fait du bien, et en même temps, ne faisons pas n'importe quoi. Et donc, il faut que chaque fidèle soit averti de ce qui est bon et pas bon.
Il est 9h15 dans Je pense, donc j'agis. Je rappelle que ce matin, vous l'entendez, on parle de ce document publié par le Vatican le 17 mai dernier sur les phénomènes d'apparition mariale et les manifestations extraordinaires. Si vous avez eu connaissance de ce document, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez la prudence de l'Église en la matière et notamment sur les critères de discernement? Est-ce que vous êtes sensible d'ailleurs à ces manifestations? Vous venez témoigner au 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on continue, Véronique, de parler de ce sujet avec nos trois invités jusqu'à 10h.
André Monsterman, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce texte? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous pose la même question que celle que j'ai posée à Marie-Hélène Robert. Qu'est-ce qui vous a frappé?
Oui, donc d'abord, je crois que c'est très réjouissant que le Vatican, que le Saint-Siège, dans ce texte, clarifie beaucoup plus clairement qu'avant le statut des apparitions mariales. Donc Marie-Hélène Robert disait à juste titre hein, que une apparition, un message qui viendrait de Marie ou de notre saint ou même du Christ lui-même qui est donné à une personne ou à plusieurs personnes ne rajoute rien à ce que nous croyons en tant que catholiques, hein, ce que nous devons croire. Chaque fidèle est libre de croire ou de ne pas croire. Jusqu'à là,
de ne pas croire à ces apparitions.
À ces apparitions, bien sûr. On parle de la révélation divine qui passe par Jésus-Christ, qui est la révélation parfaite, l'accomplissement de toute révélation. Pour nous, nous et on a accès au Christ par les Écritures saintes et par aussi la tradition qui explique et qui nourrit notre foi par cette explication. Ces apparitions ne sont pas obligatoires. Il n'y a aucun catholique qui est obligé de croire dans le message de Marie à Lourdes ou à Fatima. Et donc il y avait une petite problématique parce que quand on dit que l'Église reconnaît les apparitions, on sous-entend presque qu'il y a une reconnaissance de l'Église qui dit « c'est vrai ». Tandis que l'Église n'a jamais dit « c'est vrai ». L'Église a seulement dit « vous êtes tout à fait capable d'y croire, il y a raison d'y croire même peut-être, mais vous êtes tout à fait libre, gardez votre liberté et votre esprit critique aussi si nécessaire, et si vous n'êtes pas capable de croire dans ces apparitions, vous êtes autant catholique que quelqu'un qui y croit et qui y va pour ce pèlerinage ». Ça a toujours été la ligne de l'Église catholique, et il me semble que de parler de reconnaissance des apparitions mettait un peu... nous mettait en porte-à-faux avec cette conviction-là, parce que ça faisait croire qu'il y avait une sorte de reconnaissance et donc quasiment une obligation. Là, le Vatican a changé de registre. On ne parle plus de reconnaissance, on parle de nihil obstat. Il n'y a pas d'objection. Voilà. Donc l'Église dit, écoutez, on a fait nos recherches, on a constaté qu'il n'y a pas de supure, il n'y a pas de manipulation, le message est conforme à la foi catholique, la personne est de bonne foi, ça porte même des bons fruits pour les fidèles qui par ces apparitions commencent et arrivent à mieux cerner l'Évangile et le message de l'Évangile pour aujourd'hui. Donc, si vous y êtes attiré par ces apparitions, allez-y, il n'y a pas de danger et nous cautionnons en fait ces apparitions de ce côté-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une reconnaissance de la supernaturalité, de la surnaturalité. Vous voyez, donc c'est peut-être le premier point qui est très important.
Nicolas de Beaucard, est-ce que on joue pas sur les mots là entre reconnaissance et nihil obstat, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas mais on ne s'oppose pas?
Ah non, c'est pas pareil. D'abord pour resituer, il faut quand même nous sommes à dans une société très médiatisée, et ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, on est tout de suite au courant. Donc c'était important que l'Église donne un peu des normes précises, ce qui n'existait pas autrefois, on ne savait pas tout ce qui se passait dans le monde, et au niveau des apparitions, des phénomènes entre guillemets surnaturels, il y en a des centaines. Joachim Boufflet, un des grands spécialistes des apparitions mariales, a écrit un livre sur tous ces phénomènes dans l'Église, actuellement c'est plusieurs centaines. Donc c'est important que l'Église donne un peu des normes qui, ne déclarent pas si ces phénomènes sont surnaturels ou non, mais donnent des critères d'évaluation. Nihil obstat, ça veut dire rien ne s'oppose, libre à chacun d'y aller, de profiter des fruits qui sont donnés dans ce lieu, mais personne n'est obligé. Alors que si vous dites c'est surnaturel, les gens se demandent presque si ça ne fait pas partie de la foi. Or, comme on vient de nous le rappeler très justement, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est en dehors de ça. Ça peut aider à la manifestation, mais ce n'est pas, ça ne fait pas partie de la foi comme telle.
Marie-Hélène Robert, sur ce point, d'un point de vue théologique.
D'un point de vue théologique, ce qui apparaît, c'est qu'à chaque fois, il est question de relier la foi et la morale, ou les mœurs, comme on disait avant. La morale, c'est-à-dire que les apparitions vont aussi être regardées selon les fruits qui émanent de ce phénomène, et également la moralité de ceux qui disent avoir vu. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que il y a la foi, et ça, la foi, elle est clairement définie. Il y a aussi la manière dont ça se passe. Et c'est pourquoi on a un certain nombre de critères qui sont positifs, mais aussi négatifs, et qui vont jouer sur l'articulation foi et morale. Alors, par exemple, bien dans les critères positifs, ce qu'on appelle la crédibilité et la bonne réputation des personnes concernées. Vous voyez, ça tient aussi. Ou bien l'orthodoxie doctrinale du message. Bon, là, on est plutôt du côté de la foi. Et puis, les fruits pour la vie chrétienne. Est-ce que ça porte de bons fruits ou non? Vous voyez? Et je crois que cette articulation est importante à garder à l'esprit. Et voilà, c'est...
Andrew Munsterman, vous avez souligné un premier point qui vous a marqué, si vous deviez en donner d'autres.
Oui, je pense qu'un deuxième point, c'est l'articulation, ça a été déjà un peu évoqué tout à l'heure aussi, hein, mais l'articulation entre l'Église universelle et l'Église locale. Jusque-là, l'évêque du lieu où ces apparitions, ces phénomènes se manifestaient, ou semblaient se manifester, avait une très grande liberté. Et le document lui-même fait allusion aux apparitions d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Voilà, donc je suis actuellement aux Pays-Bas, donc je vous écoute, je vous appelle depuis là. Je suis à La Haye. Et effectivement, il y a eu Amsterdam, des apparitions. Le document en parle dans un paragraphe très long, où pendant plus de 60 ans, presque 70 ans, les fidèles étaient en grande question, est-ce que ces apparitions étaient justes ou pas, avec le Vatican et l'évêque du lieu qui se contredisaient. Avec le Vatican, un évêque du lieu qui en 1956 avait dit non, ce n'est pas surnaturel. Le Vatican avait confirmé ça en 74, mais un nouvel évêque qui lui-même avait un attachement très personnel depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, avec ces apparitions, a tout d'un coup reconnu ces apparitions, et donc contradiction entre le Vatican et voilà, et les fidèles qui ne savaient pas comment faire. Son successeur en 2021, a été forcé par le Vatican de reconnaître finalement que ces apparitions étaient fausses. Mais ça veut aussi dire qu'il y a entre-temps des dizaines et des centaines et des milliers de fidèles qui ont été mis en erreur. Donc là, les choses sont très clairement dites. L'évêque du lieu a la première responsabilité de faire des investigations sérieuses, mais il ne peut pas déclarer nier l'obstacle sans l'accord du Vatican, qui a le droit et le devoir de vérifier que cette recherche a été faite de façon correcte.
Alors, Nicolas de Bocard, sur cette procédure-là.
Alors, effectivement, l'évêque est le premier saisi pour faire une enquête à travers une commission d'enquête, à travers les critères que Marie-Hélène Robert nous a reprécisés. À l'inverse, s'il y a des critères négatifs, c'est évident que s'il y a des erreurs sur le fait lui-même, s'il y a des erreurs doctrinales, s'il y a un esprit sectaire qui engendre la division dans le tissu ecclésial, une recherche de profit, de pouvoir, de célébrité, des actes immoraux, des tendances psychopathiques, etc. Donc tous ces critères, évidemment, écartent la possibilité pour l'évêque de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose. À l'inverse, si effectivement il y a un esprit ecclésial, il y a une bienveillance, il y a une bonne réputation, il y a une orthodoxie, évidemment tout ça est positif.
Une fois que l'évêque... Ça joue en faveur de...
Alors ça joue en faveur justement
des événements.
Des critères que l'Église donne à l'évêque. Il va devoir transmettre les résultats de son enquête à travers un certain nombre de critères ou de présumer en disant... Aucune certitude n'est exprimée quant à l'autotransité surnaturelle, ça c'est propre maintenant à toute apparition, mais il y a un nihil obstat, c'est-à-dire rien ne s'oppose à une action de l'Esprit-Saint au milieu d'une expérience spirituelle. Et puis il y a d'autres critères, il y a des signes importants, le deuxième, mais des éléments de confusion possibles. Troisième critère, quelques éléments critiques ou significatifs, il y a peut-être des fruits spirituels. Quatrième critère, malheureusement, il y a des éléments positifs, mais une personne, une famille ou un groupe en font un usage abusif, peut-être à travers des questions financières par derrière. Par contre, dernier critère, des points critiques et des risques qui semblent sérieux, malgré les éléments positifs. Et le dernier critère, qui est alors là vraiment déclaration de non-supernaturalité, c'est-à-dire que c'est évident que là, il n'y a rien, c'est de la supercherie totale. L'évêque transmet à Rome ses différentes attitudes qu'il peut avoir et Rome confirme ou non ce que l'évêque a fait. Et donc l'Église universelle va être informée que tel ou tel phénomène, l'Église n'y voit pas d'inconvénient ou met des réserves ou alors dit non, tout ça c'est de la supercherie. Donc ça permettra aux croyants de se positionner d'une manière plus claire.
Marie-Hélène Robert, alors je sais que vous êtes théologienne, vous n'êtes pas scientifique, mais malgré tout, là, on est quand même dans une société, on est au 21e siècle, la technique, les sciences sont désormais incontournables et sont des appuis très précieux, y compris dans ce genre de phénomène ou de situation, et ils peuvent venir appuyer, éclairer certaines situations qui sont floues. C'est précieux, ça ?
Oui, tout à fait précieux. En fait, il y a trois phases avant que l'évêque ne rende son rapport. Une phase d'enquête préliminaire, une phase d'évaluation et la phase de conclusion. Et dans la première phase, la phase d'enquête, il est question de faire appel à des expertises scientifiques En particulier, justement, ce qui a été déjà dit, les analyses de sang, des larmes, ces éléments-là sont très, très précieux. Et cela, on fait appel à des experts extérieurs, neutres, qui vont pouvoir aider à discerner sur la validité ou non de ces éléments qui parviennent.
Et ça, c'est absolument indispensable pour la crédibilité, ne serait-ce que de l'évêque, du diocèse et de l'Église, d'une manière générale. Nicolas de Bocard, à ce sujet ?
Alors, c'est évident qu'il faut des compétences diverses et variées. Et dans ce domaine, par rapport à tout ce qui touche notamment à l'Eucharistie, il faut des scientifiques qui analysent. Effectivement, il y a eu une transsubstantiation, c'est-à-dire que ce qui est arrivé parfois dans l'Église, on vénère une hostie parce qu'elle s'est transformée en quelque chose à ce qui ressemble à de la chair. Il faut des analyses scientifiques pour voir effectivement si c'est du tissu humain ou c'est encore du pain et du vin.
C'est quoi le mot que vous avez utilisé, Nicolas de Bocard ?
La transsubstantiation, c'est le changement de substance.
Il faut s'accrocher.
C'est très technique.
Ouais, on va marquer une pause d'ailleurs. On va se retrouver dans un instant avec vous trois. On accueillera Jean-Marie et Marie-Josée au 04 72 38 20 23 qui ont quelques petites choses à nous dire ce matin. On parle de ce document du Vatican sur le discernement que nécessitent les phénomènes d'apparition mariale et les manifestations extraordinaires. Vous continuez de réagir également par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 9h30 dans Je pense donc j'agis. Est-ce que vous comprenez la prudence de l'Église et les critères de discernement ? Est-ce que vous êtes sensible à ces manifestations un peu extraordinaires ? Est-ce que vous y croyez ? Bonne question. On vous attend pour témoigner au 04 72 38 20 23. Voici un extrait du spectacle musical Bernadette de Lourdes.
Je suis née dans la boue, sans aucun horizon. Que rester à genoux sans chercher de raison. Je suis née dans la boue parce que c'était ma place. Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous? Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous? De la boue, en y trouvant l'eau claire qui m'a tenu debout pour m'éloigner de terre. Je suis née de la boue pour y laisser une trace. Alors si c'est moi, ce n'est que pour vous. Alors si c'est moi, ce n'est que pour vous. Alors si c'est moi, ce n'est que par vous. Je suis sans doute moins qu'une autre. Je porte en moi. D'être l'une des vôtres. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis pour vous. Alors je suis là, je le suis.
Pour Je vous le conseille, hein, ce spectacle musical Bernadette de Lourdes, c'est absolument...
Je crois que vous l'avez beaucoup aimé ce week-end, hein, Melchior.
J'ai chanté toute la nuit ces chansons qui restent en tête. Nicolas de Beaucaire, je me tourne vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux critères qu'on évoque aujourd'hui dans cette émission, je pense donc j'agis, les apparitions seraient reconnues comme celles de la Vierge à Lourdes?
Eh bien, le critère maximum que peut donner l'Église sur des apparitions, des phénomènes, c'est ce nihil obstat, c'est-à-dire rien ne s'oppose. Mais l'Église ne dit plus, ne dit pas, la Vierge Marie est apparue à Lourdes. Rien ne s'oppose à ce qu'il y ait une apparition, parce qu'on voit les fruits spirituels, puisqu'on voit la conformité doctrinale, parce qu'on voit un certain nombre de critères, la vie de Bernadette, etc. Rien ne s'oppose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'articulation entre le phénomène et puis le donné de la foi. Le donné de la foi, il est total dans le Christ, mais avec le temps, peu à peu, le dogme de la foi s'épanouit, nous donne différents éléments. Et ce qui est intéressant à Lourdes, c'est qu'en 1858, la présumée apparition dit à Bernadette, en patois lourdais, « Je suis l'Immaculée Conception », qui était un dogme qui avait été proclamé 4 ans auparavant et auquel les théologiens de l'époque n'avaient pas compris grand-chose, et surtout ça ne s'était pas su dans l'Église. Donc, d'une certaine manière, cette apparition de Lourdes donne à l'Église universelle ou rappelle un élément qui était passé complètement sous silence et qui est certainement important pour ce développement de la foi.
Mais alors on pourrait prendre les choses dans l'autre sens et dire, étonnamment, 4 ans après la promulgation de ce dogme...
En 54.
Oui, une apparition, Marie-Hélène Robert, vient, on va dire, attester. Est-ce que c'est pas un peu cousu de fil blanc, si j'ose dire?
Cousu de fil blanc, non, dans le sens où c'est Marie qui a décidé d'arriver, pour confirmer. Je pense que, en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est cette communication... dans l'Église, dans la foi, c'est-à-dire que bon, les évêques peuvent être éclairés à un certain degré, le peuple éclairé à un autre degré, et cette unité dans la foi, elle parvient par différents canaux, en fait. Et moi, ce qui m'a un petit peu frappé dans Lourdes, c'est que c'est vrai qu'on n'est jamais obligé de croire aux apparitions de Marie à Bernadette, ça c'est très vrai. Et en même temps, il y a une fête liturgique, le 11 février, qui a été, je crois, décidé par Pie X en 1907. Alors, c'est une mémoire facultative, mais qui est un peu laissée à la décision du célébrant. Et alors, c'est une fête qui est devenue en 2004 Bienheureuse Marie, Vierge Marie de Lourdes. Et en mettant, justement, comme disait Nicolas tout à l'heure, l'accent sur le donné de la foi après la proclamation du dogme. Et en montrant bien que c'est en lien toujours avec l'événement du salut. Ce n'est pas simplement pour... voilà. Et ce qui me marque beaucoup dans les sanctuaires de Lourdes, moi j'y suis allée longtemps, hein, c'est là que j'ai trouvé ma vocation Notre-Dame des Apôtres, ce qui me marque beaucoup, c'est que régulièrement, il y a un lien très fort fait entre le symbole de l'eau, baptême, et l'Eucharistie. Et je sais que les sanctuaires aiment à dire qu'il y a autant de miracles qui se sont produits, de guérisons, disons, surnaturelles, qui se sont produits par le Saint-Sacrement que par l'eau de Lourdes elle-même. Mmh. Vous voyez ? Et ça, pour moi, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a cette unité dans la foi.
Marie-Hélène Robert, je rappelle que vous êtes professeure de théologie à la faculté de l'Université catholique de Lyon. Nicolas de Beaucaire nous accompagne également, prêtre du diocèse de Lyon et spécialiste de droit canon. Et Andrew Munsterman, théologien et journaliste, correspondant au Vatican pour un quotidien national néerlandais. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Désolé pour l'attente, on vous écoute.
Moi, je voulais intervenir sur les apparitions qui ont eu lieu à l'île Bouchard en 1947, à quatre petites filles qui se prénomment Jacqueline, Nicole, Laura et Jeannette. Je suis d'accord avec vous sur les questions que vous avez posées. Est-ce que l'Église doit être prudente par rapport aux apparitions? Je dirais oui. Et je dirais oui aussi que la Vierge qui se manifeste, c'est aussi pour, faire un appel à la foi. Cela ne donne pas la foi. Mmh. Et je vais vous dire pourquoi je crois, j'en suis convaincu qu'il y ait eu cette apparition. C'est qu'il y a une dizaine d'années, peut-être 15 ans maintenant, la communauté de l'Emmanuel s'est établie à l'île Bouchard. Et comment dirais-je, et qu'elle rayonne par, ça rayonne par ses pèlerinages, et que c'est un appel, et que c'est un appel à la foi. Monseigneur Ferrand, qui maintenant est décédé, qui était un évêque qui a participé,
archevêque de Tours,
qui a participé à Vatican II, a reconnu les faits de, qui a reconnu que les pèlerinages pouvaient être autorisés. Et ils le sont.
Eh ben, merci beaucoup, Jean-Marie, pour votre appel et votre témoignage ce matin. Voilà l'exemple des apparitions mariales sur l'île Bouchard en 1947. Jean-Marie nous disait aussi, mais c'était très intéressant, que l'Église devait être prudente, mais finalement, ça pouvait aussi un peu nourrir la foi, Andrew Munsterman.
Oui, il me semble que la prudence est intéressante, parce que la prudence va dans les deux sens. On a bien vu dans l'histoire des apparitions, c'est un phénomène qui date presque du début de l'ère chrétienne, mais on a vu aussi des évêques qui sont parfois un peu trop enthousiastes par rapport à des apparitions qui arrivent sur le diocèse. Ça leur donne une certaine vision aussi. Il y a peut-être même un sanctuaire qui pourrait se construire. Il y a des évêques qui sont très très motivés. Et là, je pense que c'est très important que le Vatican regarde aussi comment la procédure a été mise en jeu par cet évêque. Tout à l'heure, Marie-Hélène Robert disait aussi que voilà, quand il y a des manifestations comme des larmes, comme le sang, etc., quand il y a de la matérialité, on peut faire appel aux experts. Mais quand il n'y a pas de matérialité, quand il y a des visions, des apparitions, quand on peut rien prouver scientifiquement, à ce moment-là, on fait allusion, on fait appel à des experts qui sont, par exemple, des psychologues ou des théologiens, etc. Mais ces personnes, on peut aussi les choisir en fonction de leur propre sensibilité. Et donc, un évêque a besoin d'avoir un regard supérieur, un regard extérieur par rapport au choix des experts qui choisit. Un évêque peut orienter. De l'autre côté, il y a des évêques qui ne veulent rien savoir de ces apparitions. Il y a une drôle petite histoire d'une femme qui, je sais pas si c'est une histoire qui est vraie ou pas, mais j'aime bien la raconter. Une femme qui vient voir l'évêque et dit, écoutez, j'ai vu la Vierge Marie, et l'évêque lui répond, écoutez, la prochaine fois que vous voyez la Vierge, vous lui dites que je ne veux plus qu'elle mette une fois, un jour, son pied dans mon diocèse. Vous voyez, parce que les apparitions, ça amène aussi des choses qui
ne
sont
ennuis.
Pas forcément... Oui,
parfois,
des ennuis.
Il n'y a qu'à demander à Bernadette.
Voilà, exactement. Donc dans les deux sens, je pense que c'est bien que l'Église est prudente et force aussi les évêques à faire un jeu et à faire un travail sérieux de discernement, dirait-on aujourd'hui, sur le pape François avec son esprit ignatien. Ce discernement qui doit être honnête, mais dans les deux sens, vous voyez. Et je crois que si l'Église joue ce jeu-là comme ça, avec un évêque du lieu qui prend ça très au sérieux, le Vatican qui est comme garde-fou, si vous voulez, et qui valide donc cet aspect-là, je pense qu'on peut espérer que dans l'avenir, les fidèles pourront trouver des lieux nourrissants pour leur foi et qui leur mènent vers le Christ. Parce que c'est ça le critère principal, je crois, hein. N'importe quel phénomène surnaturel, que ce soit d'une vision, d'une apparition ou de n'importe quel autre phénomène, doit nous mener vers le Christ. Ça, c'est le premier critère de tout. Si ça nous éloigne du Christ, ça ne peut pas être vrai.
Nicolas de Bocard, est-ce que ce texte et ces nouvelles normes, rendues publiques par le Vatican, vont enfin résoudre la question de Medjugorje?
Alors ça, seul l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que nous sommes à Medjugorje face justement à un phénomène qui, dans l'histoire de l'Église, est complexe. Ces apparitions durent depuis des dizaines d'années.
Elles continuent là.
Alors,
selon les
certains voyants, parce que d'autres, ils étaient nombreux au début, ils sont moins nombreux. La plupart ont émigré aux États-Unis. Voilà. C'est un peu complexe ce phénomène. Les positions des évêques sur ce phénomène ont varié au cours des temps. Il y a eu des délégués du pape qui ont dit des choses pas toujours concordantes. Ce qu'on croit savoir, que l'Église actuellement dit, au début il y a eu quelque chose, maintenant on ne sait pas très bien. Et le message de la Vierge Marie, évidemment, qui est un message, comme nous le rappelait Andro tout à l'heure, c'est toujours ça nous ramène à la foi, mais elle dit, depuis des dizaines d'années, il faut se convertir. très bien, mais on a l'impression que le disque est un peu rayé. Alors, c'est important que maintenant l'Église dise, écoutez, rien ne s'oppose, on voit les fruits spirituels. Tous ceux qui sont à la Madugorie savent bien qu'il y a une vraie ferveur, qu'il y a une vraie foi. Il y a des phénomènes peut-être plus discutables, un peu comme à Lourdes, il y a des magasins du temple qui sont mis un peu partout, il y a des questions financières derrière, mais il y a une réelle foi qui s'exprime, une réelle charité, ça c'est des points positifs. Si l'Église nous dit rien ne s'oppose, eh ben très bien, les pèlerinages continueront comme ils continuent actuellement. L'Église n'a pas à se prononcer sur vraiment savoir si c'est la Vierge Marie qui apparaît ou pas. Je crois que c'est secondaire par rapport à ce que l'Église considère. Elle met en avant non pas le phénomène merveilleux, mais l'aspect de la foi vécue par le peuple chrétien. Et ça me paraît extrêmement important.
Mais est-ce que la question des fruits de ces phénomènes n'est pas ambiguë? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que Marthe Robin a manifestement provoquer beaucoup de fruits dans la vie de tous les gens qui sont allés auprès d'elle, lui demander conseil, prier avec elle, etc. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le phénomène Marthe Robin pose question et je pèse mes mots. Certains parlent véritablement de supercherie du début à la fin et de manipulation par le père Finet. La question des fruits spirituels, Andrew Munsterman, est-ce que ça n'est pas à manipuler là encore avec énormément de précautions?
Oui, je crois. D'abord, par rapport à Medjugorje, je crois qu'il est très sage que l'Église dit aussi très clairement, et on ne peut pas avoir de reconnaissance avant, maintenant, ni l'obstacle après, à partir de depuis le 17 mai. C'est aussi que l'Église peut seulement dire ça une fois que les apparitions se sont arrêtées. Pendant que c'est en cours, l'Église ne peut pas se prononcer sur cette question-là, sauf s'il y a supercherie. Si on peut déjà constater qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Donc ça veut dire que sur Medjugorje, je crois qu'il n'y a pas, tant que les apparitions continuent à se faire, il n'y a pas à attendre de l'Église une position ferme là-dessus. Deuxièmement, sur les fruits, je crois que nous, catholiques, nous croyons aussi que les fruits spirituels pour les fidèles ne viennent pas seulement des apparitions, mais ils viennent surtout par une vie sacramentelle, par la lecture de la Bible. Tous les lieux de pèlerinage, tous les sanctuaires sont aussi des lieux où les personnes sont en contact avec la parole de Dieu, sont en contact avec la vie sacramentelle, l'Eucharistie en premier lieu, mais aussi le rappel de leur propre baptême, la confession, voilà. C'est très difficile de dire quand il y a des fruits qui sont portés qui sont présents dans un lieu de pèlerinage, à quoi sont dus ces fruits? La vie sacramentelle donne aussi des fruits. Donc, c'est très compliqué de faire la part des choses et les fruits qui sont lieux, par exemple, à Medjugorje ou ailleurs ne sont pas forcément uniquement liés aux apparitions, qui peuvent aussi lier à la vie ecclésiale intense et avec cette intensité qu'on le vit sur place.
Ça, c'est quelque chose, je crois, une chose à laquelle vous tenez beaucoup, Marie-Hélène Robert,
oui.
la force des sacrements.
Ah ben, je consonne tout à fait avec ce que dit Andrew. C'est vrai qu'il y a dans les sacrements une très grande richesse surnaturelle reconnue par l'Église et que nous ne percevons pas forcément tous les jours. Or, c'est le miracle permanent. Le miracle permanent, le Seigneur vient nous rejoindre chaque jour et se donne entièrement à nous. Toute l'Église est en communion, enfin c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on y est plus sensible, pourquoi? Je me souviens d'un texte, mais je ne sais plus lequel, disant « S'il y avait une seule messe célébrée sur la terre, est-ce que tout le monde ne courrait pas ?» Le fait qu'il y en ait partout, peut-être banalise un peu pour les fidèles, alors que c'est un miracle permanent. Pourquoi est-ce qu'on ne court pas après?
Et il n'y a pas besoin d'aller courir vers des choses extraordinaires?
Non, les choses extraordinaires peuvent donner envie d'aller puiser à la source encore plus extraordinaire en fait.
Marie-Josée nous a rejoint au 04 72 38 20 23 depuis Annecy. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous.
On vous écoute rapidement.
Je voulais vous parler alors j'aime mieux dire Marie s'est laissée voir que l'apparition. Marie s'est laissée voir à tous, à Zaytoun, en Égypte, sur la coupole d'une église chrétienne, orthodoxe, je ne sais pas, avec donc la photo que j'ai devant moi. Elle a été photographiée, elle a été vue par des centaines et des milliers de personnes parce qu'elle est restée très longtemps sur cette coupole, avec à côté la croix de la coupole et au-dessus d'elle, une colombe. On ne voit pas ses traits. Elle est juste une silhouette blanche, vraiment reconnaissable comme une femme, une personne. Je la regardais comme une personne. Et j'ai une icône à côté que j'aime beaucoup, mais vraiment, c'est la photo de Zaytoun qui m'attire.
Eh ben écoutez,
Fatima, quand même, c'est des milliers de personnes qui ont vu des choses, la danse du soleil et les fruits, comme vous disiez tout à l'heure, les fruits de ces laisser voir sont tellement beaux.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Marie-Josée pour votre appel ce matin pour évoquer cette apparition de Zaytoun. Hein, c'est dans la banlieue du Caire. C'était en 1968, c'est ça, je crois, Marie-Hélène Robert. Ça a été d'ailleurs reconnu par l'Église copte orthodoxe.
Oui, moi j'ai vécu 2 ans à Zaytoun dans le quartier. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est une apparition qui est tout à fait importante. En particulier parce que la dame s'est d'abord manifestée à ceux qui s'occupaient des cars et des camions à côté, dans un garage, et qui étaient tous musulmans. Et eux-mêmes, en fait, ont alerté la population en disant « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle veut se jeter du haut du dôme? Pourquoi cette belle dame est là en train de tourner autour de la coupole ?» Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'elle n'a rien dit. Et pour les Égyptiens, c'est un moment très important de compréhension de la profondeur du dialogue par le silence, en fait, paradoxalement. Il y a un moment où il faut se regarder les uns les autres, s'écouter, mais pas forcément parler.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des photos de cette apparition.
Oui, il y a des photos de cette apparition.
Mais qui sont évidemment remises en question, hein, ces photographies. Mmh. Parce qu'il y en a beaucoup.
Nicolas de Bocard.
Alors, sur Zaytoun, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Mais je pense qu'il faut aussi, comme chrétien, être prudent, comme l'Église nous demande, mais il ne faut pas être fermé par rapport à ces phénomènes. Dieu continue de parler dans les cœurs. On l'a vu à travers tous les baptêmes d'adultes nombreux dans l'Église de France cette année. Un certain nombre de personnes qui viennent d'autres religions, notamment de l'islam, témoignent de phénomènes un peu surnaturels dans leur vie et dans leur conversion. Dieu s'est incarné. Il continue aussi de nous parler et d'approfondir son mystère à travers des phénomènes qui peuvent nous paraître mystérieux, mais sur lesquels il ne faut pas être bloqué, fermé ou croire que ce n'est pas du domaine justement de la vie chrétienne. Il faut être attentif, prudent, sage, et je pense que ces critères de l'Église vont nous aider à l'être davantage.
Jean-Pierre nous a rejoint de Tours. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes avec nous au 04 72 38 20 23? Je n'ai pas l'impression. Eh bien, tant pis, si vous nous entendez, vous nous rappelez.
Andrew Munsterman, le 19e siècle a été marqué par de très nombreux phénomènes d'apparition, notamment en France. Ils ne sont pas innombrables, on pourrait les citer les uns après les autres, mais ils sont nombreux quand même. On a l'impression que le mouvement s'est quand même beaucoup ralenti. Est-ce que la science est passée par là? Est-ce que il n'y a plus véritablement d'apparitions que l'on peut considérer comme étant crédibles? Quel regard vous portez sur ce phénomène?
Oui, donc d'abord, historiquement, le 19e siècle, à partir du 19e siècle, on entre dans ce que les théologiens appellent l'ère mariale, c'est-à-dire une sorte d'un siècle et demi où la place de la Vierge Marie était très importante dans la vie de l'Église, dans la vie de beaucoup de fidèles, mais aussi dans la théologie dogmatique, où on a beaucoup écrit sur Marie. Et où parfois aussi la prudence manquait un petit peu. D'ailleurs, le mot prudence, une petite parenthèse, le mot prudence dans le document du Vatican récemment est un mot qui a été utilisé par Benoît XVI, par le pape Benoît XVI, dans son texte Dei Verbum, pas Dei Verbum, Verbum Dei, et donc c'est le pape Benoît XVI qui appelait à la prudence chez nous, pour les fidèles, quand on adhère à ces apparitions. Il est vrai que Marie semblait beaucoup aimer la France au XIXe siècle. C'était une sorte de, elle était presque hollandaise, parce qu'elle passait ses vacances en France, elle adorait avec venir en France. Mais je ne suis pas d'accord, trop d'accord avec vous pour dire que c'est ralenti. Il y a des manifestations de la Vierge ou autres types de manifestations tous les jours, partout sur la planète. Heureusement qu'on sait pas tout parce qu'on n'arriverait pas à tout suivre. Récemment encore en Italie, au lac de Bratiano, un lac au nord de Rome, des apparitions qui ont duré plusieurs dizaines d'années avec la Vierge Marie qui apparaissait et que maintenant le Vatican, l'évêque du lieu a dit clairement que ce ne pouvait pas être surnaturel. Et il y a chez des personnes, chez beaucoup de nos fidèles, une certaine curiosité et un certain désir de preuve que Dieu existe vraiment. Voilà. Et je crois que c'est tout à fait humain. Et donc on a cet attrait, on a cette curiosité, on a attiré vers ces phénomènes et surtout quand peut-être on est dans une période de notre vie où la foi n'est pas aussi forte qu'on pourrait imaginer, ces phénomènes surnaturels nous amènent vers là. Mais il me semble qu'il est très important, et c'est la dernière chose peut-être là-dessus, de se rappeler aussi que Saint Paul, dans sa lettre, il dit que les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent la sagesse, oui, la philosophie grecque, mais dit-il, nous annonçons un Christ crucifié. Et ce Christ crucifié, c'est une folie pour les Grecs et un scandale pour les Juifs. Et pourtant, tout va nous mener vers là. La sagesse théologique ou autre, la sagesse nous mène vers le Christ si tout va bien. Les miracles nous mènent vers le Christ si tout va bien. Mais on n'en a pas besoin ni de l'autre, ni de l'un, ni de l'autre pour être véritablement croyant. Si ça nous aide, parfait, tant mieux. Si ça nous aide pas, on laisse ça de côté, on est autant catholique que les autres.
Alors Nicolas de Bocard, est-ce que ce qui a changé, c'est que l'Église reconnaît donc beaucoup moins vite et beaucoup moins facilement les apparitions qu'elle ne le faisait au 19e.
Elle donne des critères qui vont permettre de céder de ces moyens, ce ne sont que des moyens, ou au contraire les refuser. Donc je pense que c'est vraiment une aide dans l'attitude de chaque chrétien à voir. Je pense qu'il ne faut pas oublier que certaines apparitions, je pense en particulier à Lourdes, le pape François est très sensible à ces dévotions populaires ou ces manifestations populaires. Il ne faut pas mettre de côté ou sous-estimer la foi populaire des petits, des pauvres, qui trouvent dans ces lieux une manifestation de leur vie chrétienne dont ils ont besoin. Et parfois, ces lieux d'apparition, ces phénomènes, sont là pour justement aider les pauvres et les petits. Donc, soyons attentifs, en étant prudents, à ne pas se fermer. Le Seigneur ne parle pas uniquement à travers les manuels de théologie, il parle aussi à travers la foi vécue communautaire par des gens qui sont des pauvres et des petits et qui adhèrent de cœur à une présence ou un passage de l'Esprit-Saint dans des lieux ou à travers des phénomènes divers et variés.
Marie-Hélène Robert.
Oui, moi je voulais dire aussi que l'Église n'a pas attendu le XXe siècle pour poser des critères, je crois qu'il faut le rappeler. Le texte lui-même cite quatre textes différents de Jean de la Croix au XVIe siècle. Et puis, au XIVe siècle, Gerson avait écrit un texte qui donnait cinq critères pour reconnaître la véracité d'une apparition. Et on retrouve un peu cet esprit-là. C'était sur la distinction des vraies et fausses visions. Et dans ces critères, donc, il y avait d'abord l'humilité. On ne l'a pas assez rappelé. L'humilité. Ensuite, la discrétion.
L'humilité de ceux
l'humilité
qui voient
des
ou
voyants,
de ceux qui...
Des voyants.
Parce qu'on n'a pas parlé des gens qui ont des stigmates, par exemple.
L'humilité des voyants. Ensuite, la discrétion. On ne cherche pas à faire du tapage, mais à plutôt approfondir. Troisième critère, la patience du voyant lorsqu'il est éprouvé. Ça, avec Bernadette, on en a un très très bon exemple. Le quatrième n'arrive qu'en quatrième position. La vérité doctrinale, la conformité à l'Évangile. Et le cinquième critère, c'est la charité. Tout ce qui mène à l'amour de Dieu. Donc les fruits. En fait,
Nicolas de Bocard.
Juste un petit exemple rapide. Mère Marie-Aimée de Malétroit, un couvent qui est en Bretagne, qui est une femme qui avait plein de phénomènes incroyables. Le général de Gaulle a d'ailleurs donné la Légion d'honneur parce que, étant toujours en Bretagne avec un don de bilocation, elle est allée dans un sous-marin pendant la guerre pour rectifier le tir et éviter qu'il explose. Donc c'est des choses assez incroyables. Ceci étant dit, une sœur de Malétroit m'a dit... les phénomènes particuliers qu'elle vivait, les extases, les choses, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je peux vous dire de cette sœur, c'est que je ne l'ai jamais entendue critiquer une autre sœur. Mmh. Et là, on voit l'humilité, la charité et peut-être le passage de Dieu dans une vie.
Et c'est ça qui est le plus important,
oui,
finalement.
Bien sûr.
Marie-Hélène Robert, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous êtes professeure de théologie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon.
Notre-Dame des Apôtres.
Et vous êtes membre de la congrégation Notre-Dame des Apôtres, effectivement. Andrew Munsterman, merci également. Vous êtes théologien et journaliste. Vous êtes correspondant au Vatican pour un quotidien national néerlandais. Je rappelle que vous êtes également l'auteur aux éditions du CERF d'un livre intitulé « Marie Corédemptrice ». Débat sur un titre marial controversé. Et Père Nicolas de Bocard, prêtre du diocèse de Lyon, spécialiste de droit canon. Encore un très grand merci
oui,
à tous les trois.
Vous avez bien travaillé, bravo à tous les trois, c'était très intéressant. Véronique, dans un instant, on va aller dans les sanctuaires Mario, ici et là en France, avec vos appels toujours au 04 72 38 20 23, tout de suite.